Qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde dans une glace, ce garçon? Moi, je n'y vois qu'un lâche. J'attends juste qu'on mette le mot coupable sur sa tête.
Jonathan Daval, sur le banc des accusés depuis ce matin à Vesoul, il admet être le seul impliqué dans la mort de son épouse Alexia, mais le mystère Daval, les raisons de ce meurtre, restent à éclaircir. Pour le Covid, le plus dur est-il passé? Prudence d'Olivier Véran ce matin, ça peut repartir. Nous ferons le point sur l'épidémie, sur les évacuations sanitaires qui se poursuivent en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous irons en Italie où la situation s'aggrave et en Allemagne où Angela Merkel prépare un nouveau tour de vis. Xavier Bertrand et Bruno Retailleau sont les deux préférés des militants LR pour 2022. 10 000 d'entre eux ont été consultés. Après le journal, toutes les questions sur le futur vaccin avec la vaccinologue Marie-Paul Kenny, invitée d'Europe Midi, spécialiste mondiale. Elle a été sous-directrice de l'OMS pendant la crise d'Ebola. Elle préside le comité scientifique des vaccins Covid. Quelle efficacité, quelle disponibilité? Qui sera vacciné en France en priorité et quand?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le crime avait bouleversé la France en plein mouvement MeToo. Jonathan Daval, qui a fini par reconnaître avoir tué son épouse Alexia après avoir joué les maris éplorés pendant 3 mois, comparaît depuis ce matin devant la cour d'assises de la Haute-Saône à Vesoul. Est-ce une dispute qui a mal tourné, comme il le prétend, ou un crime prémédité, comme le pensent les parents d'Alexia? Et pour quel mobile? Arthur Mbaché, vous venez d'assister aux premières heures de l'audience.
Oui, et entendu Patrick, les premiers mots de Jonathan Daval dans le box, enfin plutôt le seul mot qu'il a eu l'occasion de prononcer ce matin, à la question du président de la cour, reconnaissez-vous toujours les faits? L'accusé est au bord des larmes, il vient de retirer son masque, on voit qu'il se mord les lèvres et sans hésiter, dans un souffle qui fait saturer son micro, il répond oui. C'est tout pour l'instant, interrogatoire approfondi de l'accusé, mercredi, Jonathan Daval à ce moment-là s'assoit, remet son masque. En 3 ans, à vrai dire, il n'a pas vraiment changé, le même visage presque poupin, les mêmes cheveux courts. Juste avant, il y avait eu la longue et désagréable lecture des faits, le meurtre, le transport du corps, les mensonges de l'accusé. Et à chaque fois qu'au gré des lectures de procès-verbaux apparaît l'image d'une Alexia Daval, peut-être colérique, agressive, voire humiliante avec Jonathan, dans la salle, la mère de la victime fait nom de la tête Isabelle Fouillot, qui disait ceci en entrant dans le palais de justice ce matin.
C'est le procès de Jonathan et je ne veux pas que ce soit le procès d'Alexia.
Ça on le supportera. Oui.
Voilà, et ça,
on l'a dit.
Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça?
Ben, je connais la défense, je sais sur quoi elle va aller. Hein.
Oui. Vous appréhendez de le voir?
Non, je n'ai pas peur de le voir. Non. Allez, j'espère que c'est lui qui a peur de le voir.
Un dernier mot sur le président de la Cour qui a dit ceci à Jonathan Daval tout à l'heure. Le retentissement médiatique ne doit rien changer. Ne regardez pas la salle, ne regardez pas la presse, regardez vos juges, regardez vos jurés. Ce sont eux qui vous jugeront.
Arthur Mbaché à Vesoul pour Europe 1. Autre début de procès, celui de l'attentat des jouets du train Thalys à l'été 2015. Un Marocain de 31 ans qui était en lien avec le coordinateur des attaques du 13 novembre est jugé par la cour d'assises spéciale de Paris. Pour la crise sanitaire, les autorités ne veulent pas crier victoire, mais il semble que la France ait passé le pic de la deuxième vague. Olivier Véran ce matin à Lyon.
À l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes au pic de patients admis en réanimation et au pic de patients admis à l'hôpital. Il y a quasiment 5000 malades du Covid dans les réanimations françaises, auxquels il faut ajouter environ 3000 malades non Covid qui sont également dans les réas, ce qui veut dire qu'on est presque à 8000 malades aujourd'hui dans les réanimations françaises, alors qu'à la base nous avions 5000 lits. Donc la pression sanitaire hospitalière, elle est très forte, donc il faut la faire baisser. Là, nous sommes, j'avais parlé de frémissement il y a quelques jours, là j'ai parlé du fait que nous sommes sur une phase de reprise de contrôle, où nous faisons reculer progressivement l'épidémie. Enfin, tant qu'elle est à ce niveau-là, elle peut repartir. Donc il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire, si demain les Français disent « c'est bon, on arrête, on en a marre » ou « l'épidémie repartirait ». Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc il faut, dans la durée, être encore vigilant et actif. Et ensuite, on pourra discuter du déconfinement.
Victor Dolande, quel est le tableau ce matin? Couvre-feu et confinement ont-ils enfin porté leurs fruits?
Oui, grâce au confinement, comme au mois de mars, le virus commence à moins circuler, explique Olivier Véran. Les épidémiologistes avancent aussi l'impact couplé du couvre-feu dans les grandes villes et des vacances scolaires de la Toussaint. Et donc, depuis 10 jours, le nombre de nouveaux cas diminue, entre 20 et 30 000 contaminations quotidiennes. Le taux de positivité des tests chute lui aussi, il est en dessous de 17% actuellement. Donc ça veut bien dire qu'on reprend petit à petit le contrôle sur l'épidémie. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite, comme l'a encore répété Olivier Véran. Les hôpitaux sont loin d'être tirés d'affaire. Il y a davantage de personnes hospitalisées que lors de la première vague, mais moins de patients Covid admis en réanimation, un peu moins de 5000 actuellement contre 7000 lors du premier pic le 8 avril dernier. Cette baisse, elle est due au progrès dans la prise en charge. Les patients sont moins souvent intubés et plongés dans le coma. On les traite plus tôt et on administre plus souvent des corticoïdes ou de l'oxygène à très forte dose. Enfin, ajoutons que si la tendance est bien à la baisse au niveau national, avec des zones où le virus circule beaucoup plus faiblement, comme en Île-de-France, il reste des régions où la pression est encore très forte. C'est le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur et surtout en Auvergne-Rhône-Alpes.
Victor Delande, et les hôpitaux, les soignants sont toujours à l'épreuve. Les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes doivent continuer à évacuer des malades vers d'autres régions. Encore deux ce matin, Jean-Luc Boujon.
Oui, deux patients de 73 et 80 ans, vous voyez, ça peut être des personnes assez âgées, ont donc été transférés depuis l'aéroport de Lyon-Bron, direction l'hôpital de La Rochelle en Nouvelle-Aquitaine. À leur côté, deux médecins et un infirmier, c'est le protocole, ont pris place dans ce petit avion rapide à une heure de trajet. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était sur le tarmac de l'aéroport tout à l'heure pour assister à l'embarquement.
Donc il y a deux patients. Quel profil ?
Alors c'est des patients qui ont une atteinte justifiant une réanimation assez lourde depuis plusieurs jours, là depuis plus de 5 jours. Ils sont stables néanmoins sur le plan de la réanimation avec des traitements quand même assez complexes.
J'ai vu à l'intérieur de l'avion, c'est assez remarquable. Quand on imagine qu'il y a deux patients, trois soignants, des pousses-seringues, de l'oxygène, le respirateur, la place pour faire des opérations de sauvetage si jamais il y avait des problèmes. Cet avion comme ça qui sauve des vies et vous y participez. Merci beaucoup.
Voilà, des transferts qui sont ici devenus une habitude. Déjà 102 en 3 semaines pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes. Un peu plus des 2/3 de tous les transferts qui ont eu lieu dans le pays depuis le début de la deuxième vague. Et ça va continuer sans doute encore toute cette semaine, car même s'il semble qu'on soit parvenu à un plateau ici, que certains chiffres soient en baisse, les chiffres des admissions Covid à l'hôpital restent encore à un niveau élevé. Et les services de réanimation sont toujours pleins ici à plus de 90%.
Jean-Luc Boujon à Lyon.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, l'épidémie en Allemagne et en Italie. Toute l'Europe se prépare à des restrictions de plusieurs mois.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le Covid suite, si l'épidémie s'embrase aux États-Unis, c'est encore l'Europe qui enregistre les plus fortes progressions, avec des situations dramatiques à nouveau en Italie, mais très différentes selon les régions. Le pays subit une deuxième vague très sévère, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, le pays a franchi ce week-end le cap des 40 000 cas quotidiens, mais c'est très différent selon les régions. Naples et la Campanie, par exemple, enregistrent à elles seules 10% des infections avec un système de santé débordé. En milieu de semaine dernière, certains patients étaient même placés sous oxygène à l'arrière de leur voiture, sur le parking d'un hôpital. Dans un autre établissement où je me suis rendu, un soignant m'a confié qu'en une heure, 5 ambulances ont évacué des patients vers d'autres structures. L'approvisionnement en oxygène, c'est une citerne par jour contre 3 livraisons par semaine en temps normal. Pour ces raisons, Naples vit désormais le même confinement qu'en France. Avec quelques ajustements, les librairies et les églises restent ouvertes. En revanche, ce n'est pas la même chose à Rome. Le risque y est jugé faible. Les Romains vivent avec les mêmes règles que celles qui prévalaient en France avant le reconfinement. Un couvre-feu, assez peu de restrictions en journée. En fait, l'Italie adapte sa stratégie en fonction de la situation épidémiologique de chaque région.
Jean-Sébastien Soldaidi à Rome pour Europe 1. L'Allemagne aussi tente de reprendre le contrôle de l'épidémie et Angela Merkel devrait annoncer cet après-midi un nouveau tour de vis, Hélène Kohl.
Oui, elle l'a dit ce matin lors d'une réunion à huis clos. Les chiffres semblent se stabiliser, mais trop lentement. Donc il faut passer une vitesse supérieure si on veut atteindre d'ici Noël l'objectif que se sont fixés les spécialistes ici en Allemagne, reprendre le contrôle sur la propagation du virus en étant capable de retracer les chaînes de contamination. Actuellement, malgré l'application qui a été installée par 21 millions de personnes, dans 75% des cas, on n'a aucune idée de l'endroit et de la manière dont le patient a été infecté. Et donc on s'attend effectivement à de nouvelles restrictions qui seront annoncées à l'issue de la réunion entre Angela Merkel et les présidents de région. Selon le ministre de l'économie, Peter Altmaier, ces mesures pourraient être en vigueur pour une durée de 4 à 5 mois et elles frapperont surtout les contacts dans la sphère privée. Jusqu'à présent, ici, on pouvait assez librement retrouver ses amis tant que c'était à l'extérieur. Et bien, tout ça, ça devrait être terminé. Et puis peut-être aussi des règles renforcées dans les écoles, port du masque, enseignement en demi-groupe. Enfin, là où il y a des foyers de contamination, des clusters, les magasins pourraient aussi être fermés temporairement.
Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 à Berlin. La politique en France, avec une consultation réalisée par le député Julien Aubert auprès des militants LR, 10 000 adhérents à jour de cotisation, interrogés sur la stratégie présidentielle de leur parti. Quel candidat ? Quelle procédure ? Alors, Aurélie Herbemont ?
Eh bien, si les élus LR sont nombreux à rejeter la candidature du conservateur Bruno Retailleau, les adhérents, eux, n'y sont pas hostiles. 33% des militants sont tentés par le chef de file des sénateurs pour 2022, devant Xavier Bertrand à 25%, même s'il a claqué la porte du parti en 2017. Mais ils sont 30% à chercher une alternative à ce duel. Preuve que la droite n'a pas d'idée arrêtée sur celui qui pourrait lui rouvrir les portes de l'Élysée. Alors comme les adhérents pouvaient choisir leur candidat idéal, le nom de Nicolas Sarkozy revient spontanément un bon millier de fois. Mais si les militants sont en quête de candidats, ils ont un avis bien plus tranché sur la primaire ouverte et ils ne veulent plus en entendre parler. 714 adhérents choisissent le système de 2016 sur 10 000 réponses. Ils préfèrent de loin une primaire réservée aux seuls encartés ou alors semi-ouverte. Preuve que les adhérents veulent garder le contrôle du choix du candidat. Des données qui aideront peut-être le parti à réfléchir au nouveau système de départage pour 2022.
Aurélie Herbemont, pour le Vendée Globe, le dématage de Nicolas Troussel sur son bateau de toute dernière génération, bateau tout neuf, dit bateau volant. Il a dématé, c'est le premier dématage de l'épreuve. Alex Thompson, le Britannique, toujours en tête, creuse son avance sur Jean Le Cam, 85 000 d'écart entre les deux premiers du Vendée Globe. Le temps, Anissa Haddadi, un temps plus calme cet après-midi.
Oui, sur l'ensemble du pays, en effet Patrick, le temps va se calmer. C'est vrai que hier c'était tristoun, hein, la perturbation qui a traversé le pays hier et qui nous a apporté pas mal de pluie est en train de nous quitter. Alors à l'est, des Hauts-de-France jusqu'à la Franche-Comté, le ciel reste encore un peu nuageux cet après-midi avec des averses et puis surtout de la neige sur les Alpes, des flocons à partir de 1600 mètres d'altitude. À l'ouest, le soleil est de retour. Sur le bassin méditerranéen, il fait très beau. Le temps est sec, calme, ensoleillé, mais attention, le vent souffle au bord de la Méditerranée, Mistral et Tramontane jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles sont en légère baisse, mais enfin très très léger. 11 degrés à Rodez, 12 à Saint-Étienne et Metz, 13 à Lille, 14 à Paris, 15 à Rennes et Lyon, 17 à Bordeaux, 18 à Nice et 20 pour Bastia, la maximale.
Merci à vous, Anissa.